À ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Nous allons faire plusieurs lectures dans ce livre. Au chapitre 3, tout d'abord, à partir du verset 1er, Néhémie, chapitre 3, verset 1er. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérénoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabaël. À côté d'eux, travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux, travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Alors on va aller au verset 13. Hanom et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils bâtirent et imposèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier, il la bâtit et imposa les bâtons, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source, il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Nous allons aller au verset 23. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, prépara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Usaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paréoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia et Hanoum, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Amen. Je sais que c'est un peu fastidieux, hein, mais il faut quand même que nous lisions de cette manière-là. Et je vous propose d'aller à la fin, au chapitre 13. Tout d'abord, verset 1er. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Avant cela, le sacrificateur Éliashib, verset 4, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Seigneur, tu nous as laissé ta parole pour qu'elle nous serve de guide. Et nous savons qu'elle est une lumière en nos pieds. Nous désirons, Seigneur, qu'elle éclaire notre chemin. Et nous avons tous besoin de marcher selon ton conseil. C'est la raison pour laquelle je te prie que tu nous viennes en aide pendant ces quelques minutes de méditation de ta parole. Mes frères et sœurs et moi-même, nous nous tenons devant toi et nous te disons, Seigneur, éclaire-nous. Et s'il te plaît, dissipe de notre esprit tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, afin que nous puissions vraiment nous conduire dans ta maison comme tu le désires. Seigneur, merci, parce que tu es à l'œuvre par ton esprit. Nous comptons sur toi. Nous avons tous faim et soif d'une action puissante, réelle, véritable de ton esprit. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, fais dans notre cœur une œuvre profonde et à toi seul soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, pour aborder la méditation de ce passage que nous venons de lire, je vais commencer par faire un tout petit rappel de l'histoire de ce peuple d'Israël. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, mais je reviens là-dessus ce matin parce que ceci me semble particulièrement important. Israël, comme vous le savez très probablement, a été divisé en deux royaumes. Il y a le royaume du Nord, il y a le royaume du Sud. Le royaume du Nord a eu souvent des rois qui étaient à l'opposé de la volonté de Dieu et ont souvent conduit le peuple d'Israël dans la voie de l'idolâtrie. Et l'un des plus terribles, dont nous avons déjà entendu parler dimanche dernier par le moyen de notre frère Matina, est le roi Akab, qui avait pour épouse une femme terrible, Jézabel, une femme qui a imposé à son mari certaines choses qui n'étaient pas du tout dans le cadre de la volonté de Dieu. Et comme ce roi a été tellement abominable, il y a eu un jugement qui a été exercé sur le peuple d'Israël et particulièrement sur ce royaume du Nord. Et il y a eu une première déportation, c'est-à-dire que beaucoup de Juifs ont été emportés en Assyrie. Et puis, qu'est devenu le royaume de Juda? Bien, le royaume de Juda était sous le contrôle, la direction de certains rois, les uns très bons, d'autres moins bons, mais finalement, petit à petit, la corruption a fini par gagner aussi ce royaume de Juda, et il y a eu une autre déportation, et cette déportation, eh bien, ce fut à Babylone. Mais, comme vous le savez, parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, un prophète avait dit que cette captivité n'allait pas durer au-delà de 70 ans. Et Jérémie était un des serviteurs de Dieu qui a annoncé cela de la part de Dieu. Et au bout de 70 ans, alors le peuple a commencé à revenir à Jérusalem. Mais Jérusalem était en piteux état. L'autel avait été renversé, le temple avait été détruit, les murailles de la ville de Jérusalem avaient été aussi complètement détruites. Et d'ailleurs, quand l'un des captifs a reçu des nouvelles, donc il s'agit de Néhémie, de l'état où se trouvait la ville de Jérusalem, il a été dans une grande tristesse, dans une grande peine. Il a invoqué le nom de l'Éternel et courageusement, eh bien, il a pris certaines décisions et Dieu a incliné favorablement le cœur du roi auquel Néhémie rendait des services et ce roi lui a donné la possibilité de retourner à Jérusalem. Mais en fait, le retour de ceux qui étaient captifs à Jérusalem s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, sous la direction, je dirais, d'un homme qui était reconnu comme un gouverneur, il s'agit de Zorobabel, et Zorobabel était associé à un souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué. Et tous les deux, quand ils sont arrivés dans le pays, ont commencé un travail remarquable. La première chose qu'ils ont faite, c'était de restaurer l'autel. Qu'avoyez-vous pour Israël, l'autel représentait un point très important. Pour nous, pour aller rapidement, eh bien je dirais que c'est l'équivalent de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de service spirituel qui puisse être rendu à Dieu, qui soit honorable. Parce que nous tous, si nous avons pu louer le Seigneur ce matin, lui rendre hommage, c'est tout simplement parce que nous sommes conscients d'être passés à la croix, d'avoir été pardonnés de nos péchés, lavés de notre souillure par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix. Et nous avons donc ici l'intention d'élever cet étendard de la croix. Parce que si nous laissons la croix prendre du recul, eh bien, c'est la fin d'une vie spirituelle authentique et profonde. La croix doit être au centre de notre vie. Puis après, Zorobabel a commencé à poser les fondements du temple. Le temple avait aussi une grande importance, puisque c'était là que le peuple se rassemblait pour offrir un culte à l'Éternel. Le temple avait été détruit, Zorobabel a recommencé à poser les fondements du temple, mais il y a eu une interruption. Et à partir de ce moment-là, les travaux de la maison de Dieu se sont arrêtés. Puis il y a eu d'autres captifs qui sont revenus à Jérusalem. L'un d'entre eux s'appelle Esdras. Et Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rétabli le culte à Dieu. C'était sa priorité et c'est ce qu'il a voulu accomplir. Et le Seigneur l'a aidé dans ce sens-là. Il a dévoilé certains péchés, il a mis en relief certaines choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Le peuple a connu un temps de bénédiction, de réveil, à l'écoute seulement de la parole de Dieu, parce que le but d'Esdras, c'était surtout de faire entendre la parole de Dieu. Et puis après lui, alors il y a eu une troisième vague de captifs qui sont revenus, et cette fois, ces captifs-là sont venus avec à la tête cet homme qui s'appelle Néhémie. Et lui, il s'est attaqué à la reconstruction de la muraille. Alors essayons de voir sur le plan spirituel ce que cela peut représenter pour nous tous. C'est certain que nous n'avons pas à reconstruire un bâtiment. Nous savons tous, mes frères et sœurs, que Dieu n'habite pas dans un édifice qui est bâti par les mains des hommes. Mais la parole de Dieu souligne, et notamment Paul le déclare dans son épître aux Corinthiens, que d'abord chacun de nous, pour notre propre part, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais tous ensemble aussi, la communauté représente le temple de Dieu au sein duquel Dieu veut être glorifié, Dieu veut être honoré, Dieu va être loué et puis également Dieu va être servi. Et évidemment, ça c'est le travail que le Saint-Esprit de Dieu accomplit en nous et au travers de nous. Alors que représente maintenant la muraille ? Bien, la muraille, c'est justement ce qui nous sépare de ce monde. Pour Jérusalem, la muraille avait une grande importance parce que ça empêchait les ennemis de pénétrer, mais en même temps, pour nous, eh bien, nous avons là l'image de ce que Dieu veut au travers de la sanctification. Lorsque nous sommes mis à l'abri de tout ce qui caractérise ce monde et qui voudrait petit à petit pénétrer, entrer dans l'Église et faire des ravages au sein de l'Église. Alors nous avons un travail à réaliser. Le Seigneur nous appelle à nous lever pour bâtir. Et j'ai remarqué une chose, c'est que dans les premiers versets de ce chapitre 3 que nous avons lu, je passe sur beaucoup de détails, eh bien, il y a beaucoup de verbes qui sont utilisés. Regardez par exemple le nombre de fois où il est question de travail, le nombre de fois où il est question de bâtir, le nombre de fois où il est question de couvrir, le nombre de fois où il est question de faire. Moi, je me suis amusé à chercher dans ce chapitre le nombre de fois où il est question de travailler. Et j'ai trouvé 25 fois ce verbe qui est mis en relief. Il y a une dizaine de fois le verbe bâtir et réparer aussi qui est utilisé, surtout réparer au moins une dizaine de fois. Et puis le mot faire, seulement deux fois. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de couper comme cela le chapitre en plusieurs étapes. Nous allons les voir, ces différentes étapes, parce que vous avez remarqué que dans les premiers versets, il y a une sorte de répétition. Cependant, il faut faire attention à une chose. Ils ont commencé par réparer les portes, mettre en place les battants, également les verrous, et fermer ces portes-là. Mais je remarque qu'Éliashib, le souverain sacrificateur, se lève avec ses frères pour faire ce travail. Il bâtit la porte, il va se consacrer à imposer les battants, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et je fais exprès de le souligner maintenant. Il n'a pas mis de verrou. Les autres ont bâti la porte, ont placé les battants, et tous ont mis des verrous et des barres. Pourquoi Éliashib n'a pas mis de verrous et de barres? Eh bien, nous nous apercevons de la raison pour laquelle il n'a pas fait cela à la fin du livre de Néhémie, et particulièrement au chapitre 13, où il est dit que Éliashib avait un parent, membre de sa famille par alliance, qui s'appelle Tobija, et Tobija est un ennemi du peuple de Dieu. Il s'est toujours opposé à l'œuvre de Dieu. Mais le lien familial qu'Éliashib entretenait avec Tobija a fait que, exprès, il n'a pas mis de verrou, il n'a pas mis de barre, et même juste à côté, il y avait une chambre qui était réservée pour Tobija. Or, vous avez remarqué, la parole de Dieu dit que Tobija était un serviteur ammonite. Or, dans les premiers versets du chapitre 13, la parole de Dieu déclare « N'entrera pas dans la ville de Jérusalem les Ammonites, les Moabites, à cause de leur comportement. » Je ne vais pas vous faire l'injure de recommencer à préciser ici quelle est l'origine d'Ammon. Vous savez tous que c'est le fruit de l'excitation de la chair, que c'est le comportement inouï, inacceptable des deux filles de Lot qui ont fait boire le papa et puis qui, après avoir eu des rapports avec, ont donné naissance à Moab et à Ammon. Mais Moab et Ammon se sont toujours, toujours opposés à Dieu. Alors, ils avaient effectivement une apparence de certaine spiritualité, mais ils étaient opposés à la volonté de Dieu. Et la Bible dit clairement, ils ne doivent pas entrer. Cependant, profitant de l'absence de Néhémie, qui pendant un temps s'est éloigné parce qu'il est retourné donner des comptes à celui qui lui avait donné l'autorisation d'aller à Jérusalem pour accomplir le travail que nous connaissons, il eut cru devoir revenir vers ce roi pour lui faire un rapport de tout ce qu'il avait accompli. Et pendant son absence, regardez, Éliashib, le souverain sacrificateur, il a profité de cette occasion-là pour faire entrer ce membre de la famille, Tobija l'Ammonite, et lui accorder une place dans une chambre. Mais quand Néhémie est revenu, bien, vous savez ce qu'il a fait. Il s'est mis en colère. Vous voyez, il y a des saintes colères. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, les émotions, par elles-mêmes, eh bien, ne sont rien aux yeux de Dieu. C'est quand nous ajoutons à nos émotions des sentiments qui ne sont pas nobles que ça peut devenir un danger et un piège. Par exemple, Jésus s'est mis en colère. Est-ce que vous le saviez? Il s'est mis en colère quand il est entré dans le temple et qu'il a vu les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie et tout le trafic qui se faisait dans le temple, dans la maison de Dieu. Et il s'est armé d'un fouet et il a renversé les tables des changeurs de monnaie et il a chassé tous ces marchands-là en disant « Il est écrit, Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Vous voyez, c'était une scène colère. Pourquoi ? Parce que le but du Seigneur, c'était de voir la gloire de son Père. Il n'est venu que pour accomplir la volonté de son Père. Et le zèle qui était en lui était un zèle qui le dévorait par rapport à la gloire de son Père. Par contre, il peut y avoir une mauvaise colère. La mauvaise colère, c'est quoi ? C'est quand, justement, nous nous couchons sur un élan de colère mauvais, entretenant des sentiments d'amertume dans le fond de notre cœur. Quand nous nous mettons en colère, il faut savoir la raison pour laquelle nous nous mettons en colère. Et si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour que, justement, ce qui est juste, ce qui doit être mis en relief, ce qui est établi par l'Écriture puisse l'être et que soit rejeté tout ce qui vient de la part de l'ennemi, là, nous sommes dans le plan de Dieu. Or, il y a des portes qui sont à réparer. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, les portes ont dans le fond une signification particulière. C'est par les portes que nous avons la liberté de sortir ou d'entrer. Et rappelez-vous de la parole du Seigneur Jésus prononcée dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 8. Écoutez-le parler lui-même. Il dit « Je suis la porte ». Et il dit que les brebis ont la liberté par cette porte d'entrer et de sortir. Mais attention, la liberté que nous avons en Christ, parce que nous avons été affranchis par le Seigneur, ce n'est pas une liberté anarchique qui nous permet de faire n'importe quoi, n'importe comment, sans avoir une direction précise qui nous est donnée par l'Écriture. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Et voici ce qui peut arriver. Malheureusement, pour certaines églises, la porte est restée fermée au moment où elle aurait dû être ouverte pour permettre aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur au travers de l'évangélisation d'entrer dans l'église et d'être sauvés. Mais parfois, eh bien, nous avons laissé la porte fermée et fermée l'évangélisation. Et puis d'autres fois, nous avons ouvert la porte, mais savez-vous pourquoi ? Pour laisser entrer tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et je dirais que nous avons laissé entrer, malheureusement, certaines choses qui ne sont que des manifestations profanes. Et ces manifestations profanes-là, elles finissent par polluer l'Église de Jésus-Christ. Oh, bien sûr, au départ, ça semble insignifiant. C'est un petit détail. C'est juste certaines choses. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? Mais mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, à vivre dans la sanctification. Et ce qui nous éloigne de la sanctification doit être éloigné de notre vie, éloigné de notre cœur. C'est la raison pour laquelle il nous faut restaurer les portes, mais y mettre des verrous et des barres. Ça veut dire que il y a des choses qui ne sont pas admises. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Souvenez-vous de ce que Paul dit, par exemple, dans son épître aux Corinthiens. Il dit, tout est permis. Mais il dit, tout n'est pas utile. Et il nous met en garde contre les choses qui peuvent devenir des moyens de pollution. Et c'est comme cela que certains peuvent, à l'instar d'Éliashib, paraître très actif dans l'Église. Eliashib, il s'est mis au travail, comme les autres. Sauf que les autres avaient pris soin de mettre des verrous et des barres. Lui ne l'a pas fait. Il paraissait très actif. Mais voyez-vous, aux yeux de l'Éternel, et je voudrais encore insister là-dessus, faire n'est pas aussi important que d'être. Et ce que nous avons besoin de demander au Seigneur, c'est d'être chacun d'entre nous, pour notre propre part, en relation avec le Seigneur. Je peux parfois être étonné de voir comment certains se lancent dans certaines activités et ils le font comme cela. Oh, très sincèrement, ils le font vraiment, je crois pouvoir dire, parce qu'ils aiment le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul moyen de prouver au Seigneur que nous l'aimons. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est en gardant la parole de Dieu que l'on prouve au Seigneur qu'on l'aime. Et c'est la raison pour laquelle lui aussi, il était actif, mais vous voyez, il a été négligent sur certains points. C'est curieux, parce que je peux voir, je peux constater certains qui peuvent se lancer, je dirais, à corps perdu dans certaines activités. Mais étonnamment, on ne les voit pas en tant qu'adorateurs, en esprit et en vérité dans l'Église. On ne les sent pas occupés des choses importantes. Il n'y a pas, je dirais, d'intérêt particulier. Avez-vous remarqué? Mes frères et sœurs, je vous parle avec mon cœur. Et vous savez, je n'ai aucun intérêt parmi vous. Aucun intérêt. Mais avez-vous remarqué, comment ça se fait que nos cultes paraissent si lourds? Pourquoi tellement d'embarras pour ouvrir la bouche spontanément, louer le Seigneur avec un cœur bien disposé? Pourquoi faut-il toujours attendre? Ou alors, peut-être, nous laisser impressionner par certains chants ou certaines personnes qui nous entraînent. Écoutez bien, mes frères et sœurs, si nous attendons l'atmosphère d'une réunion pour ouvrir la bouche et louer le Seigneur, ça veut dire que nous sommes en danger. Même s'il n'y a rien qui nous stimule extérieurement, nous devrions venir ici avec un cœur rempli de louanges, avec un cœur disposé à l'adoration. Voyez-vous, nous avons besoin de forme, c'est dommage, parce que chacun d'entre nous devrait avoir eu avec le Seigneur un tel contact, que quand il vient ici, il ne vient pas comme une batterie vide pour être rechargée, mais il vient avec un cœur plein, pour déverser tout ce qu'il y a de joie, de bonheur, de félicité, de louange dans le cœur de celui qui nous a sauvés. Et là, alors l'Église commence à être vraiment vivante. Il faut restaurer les pentes, mais il faut le faire dans le bon sens. Et je remarque, il y en a qui ont fait même plus que ce qu'on leur demandait. Mais avant de parler de cela, j'aimerais vous dire que la autre étape, ça a été la construction de la muraille. Et dans cette construction de la muraille, il y a quelque chose que je voudrais retenir. Par exemple, Dieu parle au travers du prophète Zacharie, ou plutôt, au travers de lui, au chapitre 2 et au verset 5 de son livre, et il dit ceci. « Je serai pour elle, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, je serai pour elle une muraille de feu. » C'est-à-dire que Dieu veut être, eh bien, cette protection, cette muraille de feu. Mais pour que cela soit une évidence, il faut que chacun d'entre nous, nous soyons aussi cachés en lui et qu'il ait pris toute la place dans notre vie et dans notre cœur. Et Dans un autre passage, il est dit ceci, celui qui est maître de soi-même, eh bien, il est comme une ville celui qui n'est pas maître de soi-même, il est comme une ville qui est forcée et sans muraille. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin que le Seigneur règne dans notre cœur, nous domine et soit vraiment celui qui dirige et oriente notre vie. Mais dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er, au verset 18, alors Dieu parle à son serviteur et il lui dit ceci, « Ils vont te faire la guerre, ils vont te combattre, il y aura des choses qui ne seront pas justement dans le sens que tu le souhaites. » Et il dit, « Mais tiens bon, parce que je ferai de toi comme mur d'airain, afin qu'ils ne puissent pas franchir cela. » Et vous voyez, mes frères et sœurs, nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, d'être comme une muraille infranchissable, pour que le malin n'ait pas le dessus, mais que Dieu puisse être honoré et glorifié au milieu de nous. Et voyons un peu comment ils ont travaillé. La Bible dit que chacun avait une responsabilité. Et surtout, écoutez bien le nombre de fois où il est dit, à côté d'Éliashib, les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zaccur. Les fils de Séna, eh bien, ont travaillé, à côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth. Vous relirez à la maison tranquillement ce chapitre et vous verrez le nombre de fois où il est dit à côté d'eux. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il n'y a pas de place pour l'individualisme. Nous poursuivons tous un même but. Il y a des fois des gens qui peuvent travailler solitaires. Justement, c'est le cas. Vous lirez tranquillement ce chapitre et vous verrez que quelques-uns ont travaillé seuls. Mais la plupart du temps, ils étaient ou deux ou en équipe. Mais quelques-uns ont travaillé seuls. Mais je vais vous dire, par exemple, dans la Bible, il y a un homme qui apparaît comme étant un solitaire incroyable. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il a travaillé seul dans le désert. Seul. Cependant, je vais vous dire, non pas n'importe comment. Il a suivi la direction qui lui avait été donnée par ceux qui l'avaient précédé, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et en même temps, il préparait le chemin de celui qui venait et qui allait travailler dans le Nouveau Testament. Il y avait une ligne de conduite, une direction précise, et il ne s'est pas séparé de cette ligne-là. Et la Bible met en relief, chacun doit être à sa place. Il n'y a pas de travail individualiste, mais chacun à sa place, poursuivant un même but, essayant de chercher tous ensemble qu'une seule chose, la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand il y a cela, alors Dieu peut bénir. S'il n'y a pas cela, alors à ce moment-là, sans qu'on s'en rende compte, le malin par en dessous, voyez, travaille, et c'est l'œuvre de la chair qui commence à se manifester. Il n'y a pas de place pour l'œuvre de la chair. Ah, mes frères et sœurs, faites bien attention à cela. Il y a une activité qui est l'activité de la chair, il y a une activité qui est celle que produit le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit ne pourra mettre un sceau d'approbation sur ce qui est une activité charnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons ici, eh bien, comment ils ont agi, comment ils ont construit. D'abord, reconnaissons cela, une unité, une même vision, un même but à poursuivre, avec chacun une tâche particulière, mais surtout une même vision. Non pas un qui tire dans un sens et l'autre qui tire dans un autre, mais tous dans la même direction. Et qui est-ce qui donne l'orientation? Bien, c'est pas un homme, mes frères et sœurs. Non, c'est pas un homme. C'est Dieu lui-même, au travers de sa parole. C'est au travers d'elle que nous avons l'orientation que nous avons besoin de suivre. Alors maintenant, prêtons attention à ce qui est écrit. J'ai remarqué au verset 23, il est dit, quelques-uns, au verset 23, ont travaillé comment? Après eux, Benjamin et Achib travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Un peu plus loin, dans le même verset, il est dit, après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Et encore un peu plus loin, eh bien, il est dit, il travailla devant sa maison. Alors je reprends point par point. L'un vis-à-vis de sa maison, l'autre devant sa maison, l'autre à côté de sa maison. Vous savez, mes frères et sœurs, l'Église, eh bien, est ce que chacun d'entre nous, nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi? L'Église, c'est un ensemble, non seulement d'individus, mais aussi un ensemble de familles. Et je dirais, la famille, c'est très important aux yeux de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit de la place qu'a la famille aux yeux de l'Éternel. Et vous savez, avant de pouvoir être très actif dans l'Église, il faut que nous soyons capables vis-à-vis de la maison, c'est-à-dire dans la maison, d'avoir un témoignage digne de ce nom-là, de disciples de Christ accomplis. Car bien souvent, nous nous rendons compte que certains voudraient donner des leçons aux autres et eux-mêmes, dans leur maison, n'ont pas le témoignage que Dieu attend d'eux. Avant de paraître dans l'Église, je dois être dans la maison, ce que Dieu demande que je sois. Je vous frappe, on dirait, hein? Vous me regardez d'un air très étrange. Mais est-ce que c'est vrai, ça? C'est bien ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vis-à-vis de la maison. Et c'est une chose qui est tellement importante. Prie dans l'Église, oui, mais prie chez toi. Viens écouter la parole de Dieu dans l'Église, mais médite-la chez toi. Parce que quel est le problème? Bien souvent, les familles elles-mêmes sont disloquées sur le plan spirituel. Mais ça n'empêche pas que pour sauver les apparences, mais on vient la main dans la main dans l'Église. Mais Dieu veut que vis-à-vis de ta maison, tu sois ce que Dieu attend que tu sois. Vis-à-vis, mais devant sa maison. Ah, nous connaissons tous l'expression, hein. On l'a des fois utilisée. Écoute, hein, avant de me donner des leçons, balaye devant ta porte. Vous l'avez jamais entendu, cela? Il faut balayer devant sa porte. Eh bien, là aussi, devant sa maison, je dirais, avant de donner des leçons aux autres, avant de pouvoir agir auprès des autres, parce que des fois nous voulons faire tellement de choses, eh bien, la parole de Dieu nous met devant cette responsabilité. Regarde d'abord devant ta maison le travail qui est à faire. Des fois, on voudrait prendre la place de l'autre. On voudrait faire ce que l'autre fait. Non, non, là, travaille devant ta maison. Et quand tu travailles devant ta maison, eh bien, tu contribues à la restauration de la muraille dans l'église. Puis il est dit, d'autres ont travaillé à côté de leur maison. Oui, à côté de ta maison, qu'est-ce qu'entendent les voisins? Est-ce qu'ils entendent le vacarme des manifestations de colère qui peuvent être parfois le partage de certains? Est-ce qu'ils entendent toutes sortes de bruits qui ne sont pas tellement édifiants et qui sont au contraire des occasions de perturbation pour eux? Comment est-ce qu'ils te considèrent, les voisins? Comment ils te voient? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Regarde, mon frère et ma sœur, j'espère qu'il n'y a pas de situation semblable. Mais quel problème? Quand à côté de la maison, le témoignage est détruit, anéanti, comment est-ce que dans l'Église, il peut y avoir une riche bénédiction? Je reprends donc, vis-à-vis de la maison, devant ta maison, à côté de ta maison, ça, c'est un travail de restauration. Mais je vais poursuivre. Il y en a même un, c'est au verset 30. Il est dit après eux, Anania, fils de Shelemia et Hanoum, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Ça devrait vous rappeler quelque chose, ça. Vous vous souvenez comment Jésus a parlé dans l'Évangile? Il dit, c'était une condamnation pour tous les pratiquants de la religion, mais pratiquants extérieurs. Et il a dit, en stigmatisant cela, « Ah, cela vous plaît d'être sur la place publique, de prier publiquement avec de belles et magnifiques paroles, et vous êtes là avec vos larges phylactères, et tout le monde vous remarque. Mais la prière qui est agréable à Dieu, c'est celle qui est dans le secret de ton cabinet, dans ta chambre. » Vous n'avez pas lu ce que dit le Seigneur? Rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là, dans le secret, eh bien, ouvre ton cœur au Seigneur. Là, lui, il a travaillé vis-à-vis de sa chambre. Voyez, mes frères et sœurs, ce n'est pas extraordinaire ce que je dis. C'est simplement des choses élémentaires, simples, mais que la parole de Dieu met en relief. Et si nous ne faisons pas cela, il ne faut pas vous imaginer qu'il y aura des choses extraordinaires, spectaculaires qui vont se passer. Le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous dans ses moindres détails pour que nous soyons attentifs. Quand nous avançons sur ces détails-là, il peut nous conduire plus loin. Si on est fidèle dans les petites choses, la Bible dit qu'il va nous confier d'autres plus grandes. Mais il faut être d'abord fidèle dans les petites choses. J'ai juste encore ajouter quelque chose. Dans le verset 13 et le verset 15, il est parlé de certaines personnes qui ont posé les battants, les verrous, les barres, et eux, d'une manière positive. Il est dit, par exemple, au verset 15, « Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé. » Et au verset 13, Hanoum et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils bâtirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 codées du mur jusqu'à la porte du fumier. Oh, c'est vite dit ça, hein? 1000 codées de plus. Vous savez, ça fait à peu près quelque chose comme 500 mètres de muraille. De plus! C'est-à-dire, ils ont fait plus même qu'on leur a demandé, mais dans la bonne direction. Vraiment, dans l'harmonie avec les autres. Plus, vous savez, je pense à tant et tant de chrétiens. Des fois, peut-être qu'on ne les voit pas. Peut-être qu'on ne remarque pas ce qu'ils font. Je vais vous donner juste un petit témoignage. Nous avons, mon épouse et moi-même, était très marqué dans une certaine église que je ne citerai pas, par justement un couple qui, vous savez, dans l'église, excusez l'expression qui va suivre, ne payaient pas de mine. Ils étaient toujours très simples, très humbles, effacés. Ils étaient là, dans l'auditoire, fidèles à toutes les réunions. Puis, un dimanche, nous sommes attardés dans l'église, je ne me rappelle plus pour quelle raison. Puis nous sommes montés dans une pièce qui était au-dessus de l'église et nous avons vu là ce couple qui, plus d'une heure après la fin du culte, était là. Et vous savez ce qu'il faisait ? À ce moment-là, ce n'était pas, disons, le même service qu'aujourd'hui. Et la femme s'occupait de nettoyer tous les petits verres de la Sainte-Seine. Et puis, après cela, elle descendait en bas. Elle faisait les toilettes. Elle faisait le nettoyage. Et nous avons été surpris. Nous avons dit, mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là ? Ils ont dit, ah, mais c'est notre tâche, c'est notre rôle. C'est, tous les dimanches, nous faisons cela. Tous les dimanches, le culte terminé, presque seulement 2 heures après, ils partaient. Après avoir accompli fidèlement cette petite tâche, personne ne le savait dans l'église. Mais Dieu le voyait. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est curieux comment, bien souvent, quand on parle d'activité, on dit « Ah, mais moi, je veux faire cela, moi, je veux faire cela. » Oui, c'est bien. C'est bien, et tant mieux, il le faut. Il faut que des hommes se lèvent, que des femmes se lèvent, entrent dans l'activité. Mais écoutez bien, rien ne remplacera l'humilité avec laquelle nous devons agir. Rien. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes humbles, nous le faisons par amour pour le Seigneur. Non pas pour que ça marche dans l'Église. Non pas pour que, justement, on puisse se dire « Ah, cette Église, elle est vivante, formidable, il y a une organisation extraordinaire. » Écoutez bien, tout à l'heure, il y aura un moment de jeûne et de prière. Et nous allons aussi nous entretenir de cette action de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous montrer que ce n'est pas nos efforts qui vont amener une riche bénédiction, mais une action qui vient d'en haut. Parce que si cette action ne vient pas d'en haut, tout ce que nous pourrons faire sera voué à l'échec. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes toujours en train de recommencer les mêmes turpitudes, les mêmes erreurs, toujours retomber dans les mêmes travers. C'est la raison pour laquelle il faut que nous demandions au Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est un appel. Et je vous prie, demandez à Dieu qu'il nous aide pour que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous, semant dans notre cœur un amour véritable pour lui et amour pour les autres aussi, pour servir humblement dans tout ce qu'il nous demande, mais surtout en veillant à ce que jamais rien de ce qui est du dehors n'ait tendance à entrer dans l'Église sous prétexte d'amener une nouveauté ou d'amener quelque chose qui amène la vie. Parce que mes frères et sœurs, ce qui vient du dehors n'amènera pas la vie, mais la mort. Souvenez-vous simplement de ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, de cette histoire, de ce personnage qui a voulu à un moment donné eh bien, venir en aide au peuple qui avait faim. Il est allé chercher des coloquintes sauvages, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, le produit d'un travail particulier, sain. Coloquintes sauvages, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui a été jardiné, préparé comme il le faut. Ça a été comme cela dans la nature. Et il a amené tout cela. Vous savez, l'apparence tellement, c'est coloquinte. Elle paraissait tellement belle, tellement formidable. On disait, mais ça c'est bon, ça va être bon, ça va être la nourriture pour le peuple. Alors on a donné à cela. Mais quand ils ont goûté, quel malheur. Ils ont dit, la mort est dans le pot. C'était du poison. Ce qui vient de l'extérieur n'amène pas la vie. Ce qui vient de l'extérieur amène la mort. Mais ce qui amène la vie, c'est une action puissante du Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, c'est de renouveler dans cette vie de l'Esprit, chacun pour notre propre part. Et à ce moment-là, vous savez quelle a été la solution ? Le prophète qui était en service à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé que l'on amène de la farine, c'est-à-dire le blé qui a été broyé, transformé en farine. Ça vous rappelle rien ? Jésus a parlé du blé qui doit mourir, parce que sinon il ne porte pas de fruits. Et Jésus est ce grain de blé qui a été broyé entre la meule de la justice et de la sainteté de Dieu. Oui, nous oublions cela, mais il a été broyé à cause de notre péché, broyé, et sa vie nouvelle de résurrection est la seule qui peut guérir, rétablir, restaurer, communiquer la vie. C'est d'elle que l'on a besoin. Chacun pour notre propre part, individuellement, quand cela est vrai en nous, alors cela va tout simplement découler au sein de l'Église, et l'Église connaîtra une grande et riche bénédiction. Mes frères et sœurs, je savais dans le fond de mon cœur que ce message était particulièrement agaçant pour quelques-uns, et peut-être même pour la chair, il n'est pas du tout agréable. Je ne vous demande pas de juger ni d'accepter comme cela. Je vous demande de vous tenir devant le Seigneur et de prier. Et de lui dire, Seigneur, où en suis-je moi-même ? Et quand tous nous nous tiendrons devant le Seigneur comme cela, alors, après, nous verrons ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.